Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Alors ce soir, dans le dossier du jour, à l'heure où le prix Nobel de médecine de 2001 a dit la semaine dernière au Congrès mondial des journalistes scientifiques en Corée du Sud, trois choses se passent quand les femmes sont dans les labos. Vous tombez amoureux d'elles, elles tombent amoureuses de vous, et quand vous les critiquez, elles pleurent, ce qui a un peu fait scandale. Puisqu'il a dû démissionner, et il s'est d'ailleurs senti obligé de démissionner, et il le prend très mal, nous allons parler ce soir de harcèlement sexuel et de lutte antisexiste dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, avec Marie-Laure, qui fait partie du collectif Clash.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
And linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Et alors ce soir, dans le dossier du jour, on va parler harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et lutte antisexiste. Alors nous avons en plateau Marie-Laure, bonsoir.
Bonsoir.
Qui fait partie du collectif Clash. Alors Clash, donc, c'est un acronyme pour collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Et alors, peut-être avant de parler des actions et de tout ce qui se passe, puisque l'actualité est assez importante en ce moment, en tout cas en matière de lutte dans l'enseignement supérieur, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'histoire de ce collectif, avant de savoir ce que vous faites, tout ça?
C'est un collectif qui s'est créé en 2002, au moment d'une affaire qui avait fait pas mal scandale à l'époque, hein, l'affaire qui avait opposé Hervé Lebras à une... donc le démographe Hervé Lebras à une doctorante. Et donc un collectif de soutien à cette doctorante s'était monté à l'époque, donc en 2002. Un procès avait eu lieu qui a été perdu par la doctorante. Mais malgré cet échec, en tout cas sur le plan légal, C'est à ce moment-là que de nombreuses étudiantes et doctorantes ont rejoint la lutte. En 2003, une association s'est créée et ça fait donc maintenant 12-13 ans que le CLAJS est actif pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche.
Oui, parce qu'on a souvent l'impression que le harcèlement, c'est vraiment, il n'y a pas de ça dans la recherche, entre personnes bien diplômées, qui ont quand même le savoir, qui connaissent les us et coutumes, ça paraît toujours un peu étonnant. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que c'est que le harcèlement qui est spécifique à la recherche, puisque ce n'est pas du harcèlement de rue, ce n'est pas non plus le même harcèlement, j'imagine, que dans les entreprises ?
Alors, le harcèlement sexuel est défini par la loi, par la loi du 6 août 2012, qui a introduit une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, puisque dans une affaire, dans le monde du travail, un mis en cause, qu'on appelle un mis en cause, c'est-à-dire un supposé ou présumé agresseur, avait discuté la formulation de la loi précédente, qui était estimée pas suffisamment précise, puisqu'elle était tautologique, puisque le harcèlement sexuel était défini par le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Alors on part sur des faveurs, qui fait très 19e siècle. Et donc la loi a été abrogée immédiatement, en mai 2012, ce qui a créé une sorte de limbo total pour les personnes qui étaient en procédure à l'époque pour harcèlement sexuel, pour lutter, enfin en tout cas au pénal, contre le harcèlement sexuel. Une nouvelle loi a donc été élaborée et votée très rapidement, le 6 août 2012, et cette loi est très claire, hein, je vous l'ai dit très précisément, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc ce n'est pas uniquement au travail, hein, ça peut être dans tout type de relations sociales, y compris des relations privées, et bien sûr dans l'enseignement supérieur. Alors dans l'enseignement supérieur, effectivement, il y a cette idée que nous sommes dans un espace hors sol, entre personnes de bonne compagnie, bien éduquées, ce qui montre bien à quel point l'idée que des atteintes sexistes ou sexuelles sont le fait de personnes qui seraient un peu brutes de décoffrage, hein, pas très éduquées, etc., ce qui est en fait un cliché, hein, les violences sexuelles traversent toutes les classes sociales. Et puis, c'est aussi l'idée qu'on est dans un monde du savoir partagé et que du coup, entre ces personnes-là, il ne peut pas y avoir de harcèlement sexuel. Alors bien sûr, c'est faux. On trouve du harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, comme dans tous les secteurs, dans tous les domaines de la vie, privée ou publique, dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, dans, voilà, y compris dans les fonctions publiques d'État. Et c'est la même définition du harcèlement sexuel qui s'applique partout.
Et alors, dans l'enseignement et dans la recherche, j'imagine que les harceleurs sont généralement les directeurs de thèse, alors, et plus rarement, les étudiants.
Alors, on trouve tout type de situation de harcèlement sexuel. Mais il faut le dire très clairement, en matière, en tout cas, nous n'avons pas de statistiques objectives. Hein. D'ailleurs, c'est une des raisons de l'invisibilité du harcèlement sexuel, des violences sexuelles en général, hein, dans la société française, du harcèlement sexuel en particulier, puisque c'est souvent vu comme une violence sexuelle mineure. On en rigole, finalement c'est de la drague, oui c'est de la drague un peu lourde, ah on peut bien tenter sa chance, etc. Donc c'est quelque chose qui est vu comme mineur. Du coup, il y a une invisibilisation de ce problème, et ça se voit notamment dans les statistiques. On n'a pas de chiffres. En revanche, les associations peuvent témoigner du fait qu'il y a des témoignages chaque année, des dizaines, des centaines de témoignages chaque année. Dans l'enseignement supérieur et la recherche, nous recevons des dizaines de témoignages chaque année. Donc on trouve des situations de harcèlement chez tout type de public, mais effectivement, nous avons pris le parti pris de parler à clash des agresseurs au masculin et des victimes au féminin, car ce sont de façon extraordinairement majoritaire des hommes qui sont en position en général dominante qui sont des agresseurs et des femmes qui sont en général en position subalterne qui sont des agressées. Alors il faut garder à l'esprit que bien sûr nous avons très souvent des témoignages de doctorantes qui mettent en cause leurs directeurs de thèse ou des encadrants, des professeurs, mais on peut trouver tout type de situation de harcèlement, des enseignants sur des étudiantes de première année, des enseignants sur des personnels administratifs, des personnels administratifs sur leurs propres collègues ou sur des étudiants, et il arrive exceptionnellement qu'il y ait du harcèlement d'un étudiant ou d'une étudiante sur un enseignant.
Donc les agresseurs sont généralement, comme tu disais, les directeurs de thèse en particulier. Mais la direction de thèse est quand même quelque chose d'assez particulier dans l'enseignement.
Absolument. Pourquoi est-ce que nous avons plus de témoignages de doctorantes qui mettent en cause leur directeur de thèse ? Bon, d'une part, c'est que... On est un peu plus âgé hein, quand on est doctorante, on a un peu plus conscience de ses droits, des limites de ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable pour soi-même. Et puis c'était effectivement une relation pédagogique à deux qui est parfois de l'ordre de l'intime. On partage énormément de choses avec son directeur de thèse. Je dis directeur parce que pareil, de façon extrêmement majoritaire, ce sont des professeurs hommes qui encadrent les thèses, puisque encore aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et la recherche, même s'il y a une féminisation importante des postes, c'est au premier échelon, maître de conférence, chargé de recherche, avant les directeurs de recherche et les professeurs. Ce sont souvent des professeurs hommes qui encadrent les thèses. Donc c'est plus évident pour des doctorants de mettre en cause leur directeur de thèse du fait de l'avancement intellectuel, etc. Je reviens sur cette situation spécifique. Un directeur de thèse a effectivement énormément de pouvoir sur ses doctorants, et ses doctorantes en particulier. Il peut s'agir de doctorantes étrangères qui ont besoin de papiers, donc qui ont besoin d'un agrément du directeur de thèse pour pouvoir renouveler une carte de séjour. Il y a une dépendance très importante en termes de financement de la recherche. Obtenir une bourse de thèse ne va pas de soi, c'est extrêmement compétitif, mais également des financements pour aller à des colloques, à des congrès, la possibilité de publier. Puis tout simplement cette relation intellectuelle très particulière qui se noue, qui est faite d'admiration pour quelqu'un qui a une position intellectuelle, scientifique, statutaire, supérieure à la sienne. Et tout cela, bien sûr, est propice à la construction de situations d'harcèlement sexuel.
Et c'est une relation généralement qui dure longtemps en plus.
Absolument. Une thèse dure au minimum 3 ans en sciences dures, mais elle peut également durer beaucoup plus longtemps en sciences sociales particulièrement. Ça peut être des thèses 6, 7, 8, 9 ans.
Ce qui fait que le harcèlement aussi peut se faire d'une façon, je n'allais pas dire douce, mais petit à petit, sans que la doctorante s'en rende compte au départ peut-être.
Oui, il y a bien sûr des tas de tactiques de la part des agresseurs hein, qui peuvent tout d'abord flatter la doctorante en question, qui peuvent apprécier son travail, mettre en place tout un arsenal d'isolement aussi de cette doctorante sur 1-2 ans, la rendre entièrement dépendante de son appréciation scientifique, de financement, etc. Et qui fait qu'une situation de domination présentes objectivement peuvent s'installer de manière encore plus forte, y compris subjectivement. Il peut y avoir des sentiments relativement affectifs, de dépendance qui s'instaurent. Et tout cela emprisonne les victimes qui se retrouvent souvent isolées, qui n'osent pas témoigner, qui se retrouvent dans une situation dont elles ne savent pas comment sortir et qui souvent ne dénoncent pas la situation. Et quand elles le font auprès d'associations d'aide aux victimes ou auprès de CLASH, ne souhaitent pas porter plainte parce que ce qu'elles nous disent, c'est « mais je n'aurai jamais ma thèse, je ne pourrai pas publier, ma carrière est foutue, il connaît tout le monde dans ce milieu-là, c'est sa parole contre la mienne et finalement c'est toujours moi qui perdrai
ben ». Justement, qui milite à CLASH ? Est-ce que ce sont essentiellement des doctorantes ou est-ce qu'il y a aussi des professeurs qui sont les petites chevilles ouvrières qui aident justement les victimes ?
Alors la sociologie de CLASH a assez peu évolué depuis le départ, puisque c'était donc lors d'une affaire qui mettait en cause une doctorante et un directeur de thèse que CLASH a été fondée. Et depuis lors, ce sont effectivement majoritairement des doctorantes en sciences sociales qui s'intéressent aux questions de genre, qui militent à CLASH, même s'il y a également d'autres doctorantes qui ne travaillent pas forcément sur ces questions-là, qui peuvent être d'autres disciplines, mais presque toujours des disciplines connexes aux sciences sociales. Il y a également des docteurs sans poste. Donc dans l'ensemble, CLASH est un collectif de précaires, et je suis la seule titulaire.
I caused a major war just by talking. You flew into a rage, 'cause that's everything you know. Childhood of violence filled with heartache. I flew into a rage, 'cause that's everything I know. I know 100 ways to be a good girl.
Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'était Skunk Anansie, alors un petit retour dans les années 90. Mais ce soir, dans le dossier du jour, nous parlons du collectif des luttes antisexistes contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur, Clash, avec Marie-Laure. Marie-Laure qui nous présentait un peu l'historique d'ailleurs de ce collectif qui a été créé en 2002 pour répondre à une affaire entre une doctorante et un directeur de thèse. C'était à l'époque à l'EHESS. Et alors, toi, comment t'es rentrée dans ce collectif? Pourquoi t'as décidé de militer à Clash?
Alors, j'ai décidé de militer à Clash pour différentes raisons. Ça faisait plusieurs années que les violences sexistes et sexuelles me semblaient être une question extrêmement importante en tant que femme sur laquelle je souhaitais militer. Mais je ne trouvais pas forcément d'espace dans lequel le faire, puisque dans le monde féministe en général, le monde féministe est traversé de très nombreux clivages. Et étant rentrée dans l'enseignement supérieur et la recherche moi-même, ayant été confrontée à plusieurs affaires, des blagues sexistes en cours, un enseignant qui a harcelé téléphoniquement plusieurs de mes étudiantes qui sont venues se plaindre, justement une bisbille entre deux de ces étudiantes qui ont été harcelées par cette enseignante, une qui ne souhaitait absolument pas que l'autre vienne m'en parler de peur que je leur mette des mauvaises notes, ce qui en dit long aussi sur l'impossibilité de dénoncer des faits de harcèlement. Et puis une histoire d'agression, de violence sexuelle entre deux étudiants qui, et dans tous les cas, ça a été pris en charge de manière relativement compliquée par l'université, pas forcément du fait de la mauvaise volonté de collègues, mais tout simplement parce que les procédures, comme on va le voir, sont incompréhensibles, difficiles à mettre en œuvre, et parce que plane toujours un doute dans ces affaires-là, contrairement à un crime, et contrairement à un crime où on a tué quelqu'un, ou si vous vous êtes fait voler votre sac à main, vous arrivez dans une fête et vous dites « on m'a volé mon sac à main », personne ne met en doute cela. Si vous arrivez et vous dites « je me suis fait harceler sexuellement ou agresser sexuellement », il va toujours y avoir cette espèce d'idée, c'est parole contre parole. En fait, ce n'est pas le cas, et j'espère qu'on va en parler tout de suite.
Ben oui, puisque votre action à CLASH, c'est quand même d'aider les victimes. Donc j'imagine que vous êtes là pour les soutenir, que l'objectif de l'association, c'est aussi d'en parler, et ça veut dire aussi de conscientiser les étudiants, les étudiantes et les professeurs, puisqu'il faut aussi quand même parler des agresseurs. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour soutenir, par exemple, les étudiantes qui ont été agressées, dont tu parlais tout à l'heure ?
Alors, première chose sur laquelle je souhaitais revenir, c'est la loi sur le harcèlement sexuel. C'est un délit, et c'est un délit qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et en cas de circonstances aggravantes, qui peut être, par exemple, ce qu'en effet sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions, typiquement c'est le cas d'un enseignant encadrant de thèse, sur un mineur de 15 ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ça peut être une étudiante sans papier, par exemple, eh bien, le harcèlement sexuel peut être puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, comme on le voit, ce n'est pas un délit mineur. Le rôle de CLASH, c'est en partie, du coup, s'intéresser à comment appliquer cette loi dans l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui n'est pas simple. Premièrement, nous souhaitons visibiliser la lutte, puisque, comme je disais, c'est souvent une lutte qui est vue comme quelque chose de mineur, hein, c'est de la drague lourde, voilà. Donc on souhaite alerter sur le fait que c'est une lutte importante, puisque le harcèlement sexuel a des conséquences majeures pour les victimes, des conséquences affectives, psychologiques, émotionnelles, y compris sur la carrière, hein, des abandons de thèse, des abandons d'études. Deuxième chose importante, donc nous formons des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. CLASH est souvent appelé pour aller former des enseignants-chercheurs, mais aussi du personnel administratif, et souvent les personnels qui sont appelés à recevoir les victimes, donc ça peut être des assistantes sociales, des infirmières, des médecins, des enseignants de confiance, etc. Troisième dimension, le soutien à l'orientation des victimes. Alors il faut savoir que CLASH n'a pas les moyens, et nous ne sommes pas des juristes, pour constituer en fait les dossiers de victimes qui souhaiteraient porter plainte au pénal. En revanche, nous les orientons vers des associations qui peuvent les accompagner pour ce faire. Et puis, nous leur donnons des contacts, des indications. Nous rappelons la loi. Nous leur disons que ce sont des délits graves et qui doivent être pris en compte. Enfin, quatrième dimension, c'est le plaidoyer. Nous faisons du plaidoyer pour changer les procédures. Puisque, comme nous allons le voir, les procédures à l'université pour apporter réparation aux victimes et pour juger les agresseurs laissent fortement à désirer.
Justement, peut-être que tu pourrais nous en parler un peu plus de ces plaidoyers et de la situation dont l'université gère ces affaires d'agression et en particulier auprès des agresseurs.
Oui. Alors, deux choses. Quand on est victime d'harcèlement sexuel, on a 2 possibilités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. On peut tout à fait faire les 2 en parallèle, ou soit l'une, soit l'autre. Première chose, et là aussi c'est un cliché que j'aimerais bien un peu démonter, la question qu'on pose toujours, c'est finalement, pourquoi cette victime n'a pas porté plainte au pénal ? Si c'est vrai, si ce qu'elle raconte est avéré, pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte au pénal ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de le faire. D'abord, il y a une dimension de honte hein, quand on s'est fait harceler ou agresser sexuellement. Ne parlons pas du viol, qui est encore une autre catégorie. Donc, les victimes n'osent pas porter plainte. D'abord, la police est extrêmement mal formée de ce point de vue-là. Et tous les témoignages que j'ai entendus montrent que c'est un calvaire supplémentaire d'aller porter plainte à la police. Deuxièmement, les victimes souhaitent souvent rester anonymes parce qu'elles ont peur des représailles. Comme je le disais, quand on accuse son directeur de thèse de harcèlement sexuel, on a peur de ne pas pouvoir terminer sa thèse et d'avoir sa carrière fichue dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et
surtout actuellement où la situation, une fois qu'on a eu une thèse, est vraiment, avoir un poste est très difficile. Donc effectivement, il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux d'employabilité peuvent être compliqués.
Oui, en situation de pénurie de postes, effectivement, les enjeux sont encore plus importants. Et d'autant plus que c'est un milieu, un tout petit milieu, dans lequel il y a des affaires des histoires de réputation qui comptent énormément. Et du coup, être passé pour une féministe hystérique n'est jamais quelque chose qui sera retenu de façon positive pour vous. Donc, plainte au pénal, comme on le voit, c'est pas quelque chose de simple. La deuxième possibilité, c'est l'enquête administrative. Qu'est-ce qu'une enquête administrative ? Il s'agit d'une procédure interne à l'université qui permet de mettre en place une enquête, d'enquêter donc en saisissant ce qu'on appelle une section disciplinaire qui réunit différents types de personnel, administratif, enseignant, et qui va enquêter sur les faits, savoir ce qui s'est passé, et pour finalement juger, prendre une sanction qui ne peut être évidemment qu'administrative dans ces cas-là. Alors il faut savoir que c'est un imbroglio total, y compris pour Clash, qui est donc devenu spécialiste de cette question-là. Il n'est pas évident de comprendre comment ça marche. Alors pour une victime, a fortiori une victime jeune en situation de détresse, c'est encore plus compliqué. J'essaye de vous expliquer en deux mots. Une section disciplinaire doit être saisie pour se réunir. Elle ne peut pas être saisie par la victime. Elle doit être saisie forcément par le président, par un enseignant qui alerte le président, par le recteur. C'est le président, normalement en son âme et conscience, qui décide seul de saisir ou non la section disciplinaire.
Quand on parle de harcèlement et qu'il y a un système qui est organisé, qui est comme ça, qui est aussi autocratique, c'est quand même assez fou.
Oui, ce qui est extrêmement problématique dans cette procédure-là, c'est que la victime en est exclue à tous les niveaux. D'une part, elle ne peut pas donc saisir directement cette section disciplinaire, mais d'autre part, elle n'est jamais informée directement de l'ouverture d'une enquête. Si l'enquête est ouverte du suivi de la procédure, bien sûr, elle peut être entendue, parfois elle ne l'est même pas. Et puis, quand une sanction est prise, qu'un jugement est rendu, ne parlons même pas de sanction, elle n'en est pas forcément avertie. Donc la victime est exclue à quasiment tous les stades de la procédure, ce qui n'est pas le cas de l'agresseur présumé. Deuxièmement, la composition de l'instance disciplinaire est fonction du statut de l'accusé, c'est-à-dire si c'est un personnel administratif, ce n'est pas la section disciplinaire, ça va se passer ailleurs. Si c'est un enseignant, ça sera la section disciplinaire. Déjà, c'est relativement compliqué. Si c'est un maître de conférence qui est mis en cause, il y aura des maîtres de conférence et des professeurs dans la section disciplinaire. Si c'est un professeur, il y aura uniquement des professeurs. Comme on le voit, tout cela est une usine à gaz, c'est très difficile à comprendre. J'imagine pour l'auditeur, donc vous imaginez bien pour une victime, particulièrement une victime qui se retrouve dans une situation d'angoisse, d'isolement souvent, dans ce cadre.
Il n'y a pas de commission de doctorants qui regarde ce qui s'est passé. C'est que des...
Absolument pas. Absolument pas. Le statut est extrêmement important, c'est-à-dire que si c'est un professeur qui est mis en cause, il ne sera jugé que par ses pairs. Ce qui, vous imaginez bien, induit un fort corporatisme, ce qui ne veut pas forcément dire c'est pas forcément par...
Un aveuglement ou...
Oui, aveuglement ou pas prise en compte du harcèlement sexuel, mais une sorte de corporatisme où je pense que chaque professeur qui ferait partie d'une section disciplinaire se dit « Oui, mais moi, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Si un jour je suis mise en cause, j'espère que mes collègues me défendront. » Et du coup, cela engendre un certain nombre de réflexes corporatistes qui n'ont pas grand-chose à voir avec le harcèlement sexuel et qui reposent toujours sur cette idée de finalement ces paroles contre paroles. Est-ce que cette étudiante n'avait pas de mauvaises notes ? Est-ce qu'elle n'essaye pas d'obtenir autre chose avec ce type d'accusation ? Or, il faut savoir que socialement, demandez autour de vous, renseignez-vous, même posez-vous la question vous-même, est-ce que vous imagineriez porter plainte ou demander une enquête administrative pour harcèlement sexuel ? C'est quelque chose qui est très difficile socialement, qui est rarement accepté, il faut avoir à l'idée qu'à partir du moment où une victime franchit ce pas, en tout cas du point de vue des associations de victimes, sa parole est en général pas à mettre en doute.
Effectivement. Et alors, ces victimes, comment vous faites pour les soutenir lors de ces ces actions qu'elles font pour essayer de faire valoir leur parole.
Alors, Clash est très rarement amenée à suivre ce type de procédure, puisque, d'une part, la plupart des victimes souhaitent rester anonymes.
Et ça, c'est aussi le problème, mais qui est aussi lié à la situation même des étudiantes qui sont précaires et qui sont doctorantes.
C'est ça. Donc, quand on souhaite rester anonyme, il est impossible de... évidemment, on ne peut pas déposer plainte au pénal, on dépose plainte en son nom, hein, avec copie de sa carte d'identité. Demander que quelqu'un... Donc, aller voir le président soi-même, vous imaginez le type de démarche que cela suppose pour une étudiante, pour demander la saisie de la section disciplinaire ou un enseignant ou une enseignante en général de confiance, ce n'est pas évident. Il y a des progrès qui ont été néanmoins faits en ce sens, il faut quand même le souligner. D'une part, la création de chargés de mission égalité femmes-hommes dans l'ensemble des universités. D'autre part, quelques réformes de cette section disciplinaire qui doit être désormais, à partir de l'élection de nouveau CA, comité administratif, comité académique désormais, paritaire. C'est-à-dire que désormais, à parité, des femmes et des hommes doivent siéger dans ces comités. Ce qui ne veut pas dire que les femmes sont toujours tellement plus progressistes sur cette question-là, mais c'est un début de meilleure prise en compte, en tout cas, de cette question.
Ça peut permettre au moins de conscientiser et de montrer ce problème-là lors de ces AC,
non, les CA. Sections disciplinaires. Oui, dans les SA. Sections disciplinaires.
Ouh là là là, je confonds tout. Alors, on avait entendu aussi parler de clash à un moment donné. C'était au moment d'une lutte à Toulouse. C'est une lutte un peu compliquée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même une lutte qui, d'une certaine façon, a payé. Et c'est un peu pour ça, au départ, qu'on vous avait invité.
Oui. Clash a été extrêmement occupé depuis plus d'un mois par une affaire effectivement compliquée. Un enseignant-chercheur, professeur, directeur de département, a été mis en cause il y a une dizaine d'années pour des faits répétés de harcèlement sexuel et de pratiques déontologiquement contestables en matière d'encadrement d'étudiantes et de doctorantes à l'Université de Toulouse. Cet enseignant-chercheur avait déposé plainte en diffamation contre deux associations qui avaient soutenu des victimes et qui avaient publié dans... les pages de leur revue, un texte mettant en cause cet enseignant-chercheur. Ce procès en diffamation a été perdu, il faut le rappeler, il faut le souligner, par cet enseignant-chercheur en 2007, puisqu'il a argué du contraire dans différents médias et sur son blog. Il a donc perdu ce procès pour deux raisons, pour vice de forme dans un cas, pour bonne foi dans l'autre. Alors, il faut dire que ce procès ne statuait pas sur le fond, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de dire que l'enseignant-chercheur en cause était coupable ou non, mais les associations de victimes n'ont pas été jugées coupables de diffamation, c'est-à-dire que les témoignages étaient suffisamment dignes de foi pour qu'elles ne soient pas coupables de diffamation. 8 ans après, on est en 2015, cet enseignant préside un comité de sélection sur un poste fléché genre, discrimination, inégalité à l'Université de Toulouse.
Ce qui est assez fort, quand même.
Ce qui est assez ironique et ce qui montre bien les conséquences de l'inertie de l'université. C'est effectivement ironique de ce point de vue-là, déjà, mais également parce que des anciennes victimes postulées sur ce poste, il faut savoir que la composition des comités n'est connue qu'après coup. Donc vous savez qu'il y a un poste fléché genre, discrimination, inégalité. Vous postulez, vous envoyez votre dossier. 15 jours, 1 mois, 2 mois après, vous connaissez la composition du comité. Il se trouve que le président de ce comité est votre ancien agresseur, en tout cas celui que vous avez mis en cause par des témoignages qui ont été donnés à des associations de soutien à ces victimes. Donc, Clash a fait campagne pour dénoncer le conflit d'intérêts. Il faut savoir que le conflit d'intérêts en matière de recrutement est interdit dans l'enseignement supérieur et la recherche. Il y a une circulaire sur cette question-là. À partir du moment où il y a conflit d'intérêts, le comité... de sélection mise en cause doit être reformée. Or là, nous avions notamment une docteure qui avait postulé sur ce poste et qui avait témoigné dans le cadre du procès pour diffamation. Donc c'est sur ce conflit d'intérêts que plusieurs associations professionnelles, comme l'Association française de sociologie, l'Association des sociologues du supérieur, mais également D'autres associations et collectifs féministes ont signé une lettre ouverte qui est parue sur Mediapart, une lettre ouverte au président de l'université Toulouse de Jean Jaurès pour que le comité soit suspendu. Il faut souligner la victoire de cette lutte. Le comité a été suspendu. C'est une victoire importante qu'il faut souligner car un comité de sélection n'est quasiment jamais suspendu. Il est très difficile de former des comités de sélection. Nous sommes dans une période de pénurie de postes. De très nombreux collègues ont peur de perdre des postes dans ce type de procédure, ont peur des recours que de plus en plus nombreux docteurs sans poste pourraient faire à l'issue de procédures qu'ils jugeraient iniques ou peu transparentes, etc. Donc c'est une victoire qu'il faut saluer.
En tout cas, c'est une sacrée action que vous avez fait là. Et j'imagine que vous avez d'autres activités. Alors je vois là sur le plateau un petit kind que j'ai lu avant l'émission et qui est très bien fait. Alors, quelles sont vos activités pratiques ou comment on peut vous rejoindre pour lutter ou...
Alors, on peut nous rejoindre en adhérant. Nous lançons une campagne d'adhésion. Rejoignez-nous. Vous pouvez envoyer vos chèques au centre Hubertine Auclair, 7 impasse Milor, dans le 18e. Vous pouvez également participer à Clash en rejoignant lors d'une réunion, en nous écrivant à Clash, C-L-A. sches@gmail.com. Vous pouvez venir à l'Assemblée Générale annuelle qui a lieu en général en janvier-février de chaque année pour rejoindre. Ça peut être un bon moment plutôt que de prendre en cours de route, c'est pas toujours évident. Au-delà du fait de rejoindre Clash, vous pouvez vous informer. Nous avons un site internet www.clash.fr sur lequel nous publions les actions que nous faisons, les différents communiqués. Le guide pratique pour s'informer et se défendre sur le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est également en ligne sur notre site, donc téléchargez-le et distribuez-le. Nous avons effectivement différents types de campagnes, nous occupons d'autres cas, puisqu'ils nous remontent chaque mois des témoignages, différents cas. Et donc, dans votre université, vous pouvez aussi nous soutenir en publicisant ces cas, enfin, en tout cas en venant nous en parler, en nous envoyant des mails, en nous alertant sur ces soucis. Et nous pouvons vous mettre en contact avec différentes associations que nous connaissons dans toute la France, dans toutes les universités, pour vous aider à défendre des étudiantes, des doctorantes ou d'autres personnels qui seraient touchés par des faits de harcèlement sexuel.
Alors, depuis tout à l'heure, on parle surtout de doctorants et de doctorantes, surtout dans la sociologie ou les sciences sociales. Est-ce que Clash a aussi des actions au niveau des chercheuses plus en mathématiques, en physique, en sciences dures, on va dire ?
Alors, nous aimerions bien nous élargir. Donc, si vous êtes dans une branche des sciences dites dures, rejoignez-nous. Car effectivement, Clash, c'est donc sur une sorte de logique du sentier. Hein, c'est-à-dire que la dépendance originelle à sa création, à sa sociologie de départ, comme je le disais, sont avant tout des doctorantes et docteurs sans poste qui travaillent sur le genre. Donc effectivement, c'est un milieu dans lequel on se connaît bien, c'est un petit milieu. Et il n'est pas évident pour nous de toucher au-delà de l'université, puisque nous pensons évidemment aux IUT, aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce. Il y a des tas d'autres lieux d'enseignement supérieur et de la recherche que nous avons du mal à toucher. Clash est particulièrement représenté effectivement dans les sciences sociales, puisque c'est là où on travaille plus fortement les questions de genre de façon spécifique. Mais nous souhaitons nous élargir, travailler au-delà de cela. Donc n'hésitez pas, quand vous venez de ce type, des sciences dures, à nous rejoindre, d'autant que ce sont des milieux très peu féminisés et dans lesquels on peut imaginer que le harcèlement sexuel est très présent.
Oui, j'imagine. Et alors là, d'un point de vue concret, est-ce qu'il y a des actions que vous faites ? Alors là, j'imagine que c'est peut-être... les vacances, donc il y a peut-être moins d'actions directes, mais des formations, des ateliers, des choses de ce type-là ?
Alors, nous faisons des formations sur demande dans toute la France. Il y en a, je ne pourrais en citer des détails, mais il y en a eu cette année à Lyon, à Angers, à Bordeaux, à Paris. À Paris en particulier, nous faisons une formation de rentrée chaque année au mois d'octobre qui sera publicisée sur notre site hein, et nous enverrons également des flyers, des convocations largement, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Nous faisons aussi une campagne de rentrée d'affichage sur ces questions-là et puis nous avions l'idée d'aller dans différentes universités pour discuter lors des AG de rentrée sur cette question, mais ça c'est encore un programme à suivre.
Alors sur les formations, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de ce que c'est ? Parce que la conscientisation, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre finalement.
Alors nous avons d'abord une formation de départ sur ce que c'est que le harcèlement sexuel et notamment sur la loi et son interprétation. Vraiment pour sortir de l'idée qu'on est dans le parole contre parole. Le harcèlement sexuel est défini donc, comme je le disais tout à l'heure, de façon relativement large. Hein. Le législateur a souhaité que la définition soit relativement large pour prendre en compte des cas qui sinon échappent au législateur. Ce n'est pas parole contre parole au sens où nous pouvons toujours récolter un certain nombre d'éléments. Il faut savoir que les SMS montraient qu'on a 10 appels répétés sur son téléphone portable, 20-30 appels du même numéro qui se trouvaient être celui du directeur de thèse, qui n'ont pas lieu d'être. Avec son directeur, on se rencontre au bureau, il n'a pas à vous appeler sur votre téléphone. Petits SMS qui ne sont pas clairs, des invitations au café, etc. Tout ça, ce sont des éléments. Il peut y avoir des témoignages directs, de personnes qui ont vu des choses se passer, des témoignages indirects de personnes à qui vous avez raconté ce qui se passait. Il peut y avoir des lettres de votre médecin qui expliquent que votre état de santé se dégrade, que votre état psychologique se dégrade. Ce sont des tas d'éléments qui peuvent être versés au dossier. Donc nous expliquons tous les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour monter un cas de harcèlement sexuel. Donc c'est une formation qui va au-delà des textes, des interprétations des textes, mais qui concrètement donne un certain nombre de clés sur comment se défendre, ne pas rester isolé, discuter avec vos camarades, aller dénoncer le plus rapidement possible votre ami, votre meilleur ami, un enseignant de confiance, un personnel de confiance, etc. Et puis donc des clés juridiques, des clés psychologiques et puis des clés militantes aussi.
Oui, c'est important parce que quand même, c'est aussi ça, Clash, c'est une association, un collectif militant qui est là sur le terrain et qui est là pour soutenir toutes les victimes de harcèlement et de lutte, parce que c'est pas que le harcèlement, c'est aussi le sexisme ordinaire à l'université et dans l'enseignement pour la recherche.
Oui, notamment, nous essayons de montrer qu'il y a une continuité évidente entre une atmosphère sexiste et des situations de harcèlement sexuel, de violence sexuelle plus généralement. Une blague par-ci par-là n'entraîne pas systématiquement des situations de harcèlement sexuel, mais crée un climat propice à des situations dégradantes et à la mise en place de situations de domination qui peuvent permettre la création de situations de harcèlement sexuel.
En tout cas, pour suivre vos actions, on peut faire un tour sur votre site internet. Donc, on recevait Clash, donc c'est le collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est un acronyme, hein, CLASHES. Et donc on peut voir votre site internet, il y a tout, on peut vous contacter, on peut même vous donner de l'argent parce que les luttes ont aussi besoin de sous-sous. Merci beaucoup Marie-Laure d'être passée, puis on suivra la continuation de vos luttes ici à Fréquence Paris Pluriel.
Et merci à vous de l'invitation.